7h-9h, Matin Première.
Il est 7h48, qui peut battre Donald Trump à l'élection présidentielle américaine? C'est le coup d'envoi de la campagne ce lundi. Thomas Gadisson, on en parle avec l'un des meilleurs spécialistes des États-Unis du moment.
Oui, Corentin Célin, historien français, grand observateur de la présidence. Trump, à la veille du discours du président américain sur l'état de l'Union et à quelques jours du probable acquittement au Sénat dans le procès en destitution de Donald Trump, l'attention médiatique se porte ce matin sur les démocrates. C'est le caucus de l'Iowa, petit état rural du Midwest, qui est le premier en fait à voter pour les primaires qui désigneront les candidats adversaires de Trump. Cette séquence politique s'inscrit cette année dans un contexte particulier avec justement ce procès en destitution dont l'issue est attendue ce mercredi.
Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
En quoi est-ce que ce début de campagne électorale est inédit? Pourquoi est-ce qu'il est si crucial que cela, ce caucus de l'Iowa 2020?
Tout d'abord parce qu'on est dans une situation historiquement assez rare d'absolue imprévisibilité. Ce qui frappe avant les caucus de ce soir, c'est qu'on ne peut absolument pas dire il y a un grand favori, il y a deux grands favoris. On a quatre candidats qui se sont un petit peu détachés dans les sondages nationaux et en termes de levée de fonds, puisqu'il faut rappeler que le financement des élections aux États-Unis est privé. Mais on n'a pas de hiérarchie clairement définie. Et en ce qui concerne ces caucus de l'Iowa particulièrement, les sondages sont très contradictoires, très flous et assez peu fiables, il faut le dire. Donc on ne sait pas du tout à quoi s'attendre ce soir, en fait.
L'État de l'Iowa, c'est 3,2 millions d'habitants, il ne pèse pas grand-chose démographiquement, on est aux États-Unis, il n'envoie d'ailleurs que 41 délégués. Alors, le candidat qui arrive en tête, ça va forcément être celui qui sera investi plus tard par le Parti démocrate. C'est le début de la saga ?
Alors, effectivement, si on regarde depuis 2000, le candidat démocrate qui a gagné les caucus de l'Iowa a toujours été le candidat investi à la fin du processus des primaires. Donc on voit bien que c'est un rôle important pour deux raisons. Premièrement, ça lance la dynamique. Il ne faut pas oublier qu'elle est toujours associée, dans à peine 9 jours, on a la première primaire, la première élection là, directe, au New Hampshire. Et ce sont ces deux États vraiment qui créent la dynamique, qui créent ce que les Américains appellent le momentum, c'est-à-dire où des candidats vont sortir fortifiés, peut-être en ayant dépassé les attentes, et inversement, d'autres qui n'auront pas atteint leurs attentes seront progressivement disqualifiés. Et donc, ça a un rôle crucial. Après, on a vu avant 2000 déjà des candidats démocrates être finalement investis sans avoir très bien réussi dans les caucus de l'Iowa. Donc, ça a pu exister, mais c'est vrai qu'à l'époque contemporaine, c'est vraiment un très bon outil de prédiction, on va dire, de ce qui va se passer.
Corentin Célin, vous décrivez cette situation incertaine. On rappellera les quatre favoris que vous citez, Sanders, Biden, Warren et le candidat au nom imprononçable Pete Buttigieg. Trois des quatre favoris pour ces primaires ont 70 ans ou plus. Comment ça se fait qu'avec chez les démocrates, on tente encore de faire du neuf avec des vieux, si j'ose dire?
Alors, il y a essentiellement deux raisons. La première, c'est qu'on l'oublie souvent, mais les démocrates, lors de cette dernière décennie, ont subi de grosses déroutes électorales en 2010, en 2014, et une grosse défaite en 2016, ce qui a eu pour effet, en quelque sorte, de modifier la structure démographique, la pyramide des âges des élus. Beaucoup de ceux qui auraient été pour 2020 des prétendants ont été éliminés à l'échelon des États, dans les sénatoriales ou les élections pour les gouverneurs. Et donc, aujourd'hui, on est obligé de se tourner vers ceux qui restent, entre guillemets. Et la deuxième raison, j'en reviens encore là, c'est le financement aussi privé des élections qui fait que les gros donateurs aiment se tourner, on voit ça par exemple avec Joe Biden, vers des candidats éprouvés qui ont fait leurs preuves. C'est plus difficile d'investir dans un nouveau produit politique. Et donc, ce sont les deux raisons qui expliquent effectivement ce vieillissement très, très, très marquant du champ démocrate cette année.
Qui sera l'adversaire de Donald Trump, c'est donc la question du jour. Parmi ces candidats, il y a véritablement deux courants. Un courant plus pragmatique qui s'inscrit dans la continuité d'Hillary Clinton, une espèce de social-libéralisme, et un autre beaucoup plus radical qui s'affirme comme socialiste, même aux États-Unis, celui incarné par Bernie Sanders. C'est l'heure des choix, du choix en fait, pour les démocrates aujourd'hui.
Oui, absolument. Il faut rappeler que historiquement, les démocrates, depuis la défaite de Clinton, qui les a complètement sonnés, n'ont pas fait d'autopsie, entre guillemets, de la défaite de 2016 et ont reporté le plus longtemps possible le choix doctrinal, le choix de la ligne idéologique face à Trump. Et aujourd'hui, cette primaire, elle sert d'abord à déterminer quelle est la ligne idéologique. Est-ce que et c'est ce qu'incarne par exemple un Joe Biden. On reste sur le social-libéralisme troisième voie qui domine le parti depuis Bill Clinton en 1992, de coopération avec le capitalisme, d'atténuation du libéralisme à la marge par une intervention de l'État relativement faible, ou bien parce qu'on estime que justement cette ligne a été désavouée en 2016 par les électeurs, en particulier les électeurs populaires blancs qui ont rejoint Trump dans les États industriels type Michigan, est-ce qu'on dit il faut aller vers plus, par exemple, de protectionnisme, il faut aller vers un retour de l'État dans l'économie, et ça, c'est ce qu'incarne justement Bernie Sanders, et il faut bien préciser que Bernie Sanders, il se dit pas socialiste pour rire, hein. Il est vraiment socialiste, il a dit qu'il n'était pas capitaliste, qu'il était totalement en désaccord avec les principes du capitalisme libéral, et ses idées sont vraiment très à gauche, même pour des Européens. Je rappelle par exemple qu'il a un projet, une idée forte qui est premièrement de nationaliser entièrement, de rendre public le système de santé états-unien, et par ailleurs aussi un projet assez ambitieux de mutualisation, de socialisation de la propriété des entreprises entre les actionnaires et les salariés, donc vraiment quelque chose d'assez rare et jamais vu depuis longtemps.
Et c'est-elle radicale ? C'est véritablement une rupture même par rapport à la politique qu'Obama a menée ? Si Bernie Sanders sort vainqueur là, des caucus, ça c'est véritablement une rupture même dans le camp démocrate.
Ah oui, alors c'est justement le risque, et là, comme évidemment on arrive dans ces moments de primaire où c'est plus chaud, où ça commence à être un peu tendu, où on s'envoie des attaques personnelles, on voit bien qu'une partie des cadres et élus, des grands élus démocrates qui sont très centristes, très sociolibéraux, ne sont pas très chauds à l'idée d'une candidature de Bernie Sanders, et parce que pour eux, ça représenterait quelque chose qui n'est pas, c'est ce qu'ils prétendent, qui ne serait pas viable face à Trump, c'est-à-dire qu'on serait trop à gauche et on découvrirait le centre de l'électorat, en particulier des indépendants à Donald Trump, et donc les démocrates seraient voués à l'échec. Et donc, le grand risque aujourd'hui, c'est d'une division très profonde, dont on voit apparaître les symptômes déjà, des démocrates, une division qui pourrait peut-être aller jusqu'à la rupture. On a vu en particulier que l'entrée en campagne du milliardaire Bloomberg, qui n'est pas en course dans l'Iowa, mais qui est en course pour la primaire, a été saluée par des invectives jamais vu par justement les partisans de Bernie Sanders, et on voit très mal comment les partisans de Sanders et les partisans d'un Bloomberg peuvent cohabiter à long terme dans le même parti.
Corentin Sella, vous évoquiez justement cette figure hein, radicale, on l'a compris, de Bernie Sanders qui fait la course en tête côté démocrate, on va l'entendre.
Tomorrow night is the beginning. It is the beginning of the end for Donald Trump.
C'est donc le début de l'ère de Donald Trump, selon Bernie Sanders. L'issue du procès en destitution du président américain devrait tomber d'ailleurs ce mercredi. Demain, mardi, c'est le discours de l'État d'Union. Est-ce que le président, Corentin Sella, a véritablement été déstabilisé par cette séquence de l'impeachment, selon vous ?
Non. Non. Ce que nous montrent les sondages, c'est qu'au contraire, bon, il n'y a pas de changement majeur sur sa cote de popularité. Il est toujours à 42%, 43% d'opinions favorables et 53-55% d'opinions défavorables. Donc c'est plutôt un président toujours structurellement impopulaire, mais extrêmement populaire avec sa base. Sa base ne l'a absolument pas lâché. Plus de 90% dans tous les sondages des Républicains sont hostiles évidemment à la destitution. Et ça, il a su le conserver. Il a fait une véritable démonstration de force politique par son emprise sur le Sénat. On a vu que les sénateurs républicains s'étaient ligués pour refuser de la convocation de nouveaux témoins lors du procès en impeachment. Il sera acquitté, sans doute sans aucune voix républicaine manquante pour lui. De ce point de vue-là, il n'a pas été déstabilisé, contrairement à ce qu'espéraient les démocrates. Et justement, ça, c'est plutôt un peu l'échec des démocrates. Ils espéraient pouvoir gagner des électeurs au-delà de leur base, alors qu'elle aussi est tout à fait soudée et elle voudrait la destitution de Trump. Mais ils n'ont pas réussi à gagner autant qu'ils le voulaient sur ces électeurs indépendants, non affiliés, qui n'ont pas basculé pendant le procès en impeachment contre Trump.
Donc là où les démocrates se cherchent, c'est ce qu'on décrivait en début d'interview, vous êtes en train de décrire un Donald Trump qui arrive clairement en pole position. L'enjeu de ce procès, c'était l'impact sur l'opinion, et ça, c'est un échec pour le camp démocrate.
Oui, absolument. Alors, Il faut relativiser, parce que comme je le disais, Donald Trump, à l'heure où on se parle, reste quand même, selon les canons historiques aux États-Unis, un président structurellement impopulaire, mais il n'a pas perdu pendant le procès en destitution. La séquence lui a été plutôt favorable, et surtout, la fin de la séquence, là, on l'a vu au Sénat, où vraiment... par la menace qu'il a fait peser sur les sénateurs républicains qui déviraient de sa ligne, et la réussite, hein, puisque...
Parce que lui tient le parti comme un seul homme, justement, contrairement aux démocrates.
C'est ça. Exactement, parce que lui, on a vu qu'il a le parti qui s'est complètement rallié à sa ligne, ce qui n'était pas du tout gagné, souvenons-nous, il y a 4 ans. Et c'est sûr que face à des démocrates, où on n'a pas encore une figure qui a émergé, où on ne sait pas la ligne qui sera la ligne de l'élection, forcément, en ce moment, au moment où on se parle, Trump paraît avoir un petit peu l'avantage de la cohérence et de la cohésion, on va dire.
Ces deux camps politiques n'ont jamais été aussi divisés, d'ailleurs, dans leur rapport aussi aux médias. On sait que les médias avaient fait un constat d'échec lors de la précédente élection, ils n'avaient pas vu arriver la vague Trump. Est-ce que les leçons, selon vous, ont été tirées? Est-ce qu'on sent mieux la population aux États-Unis, notamment dans le camp républicain?
Oui. Alors, très clairement, en particulier, on peut penser à un journal comme le Washington Post, qui avait fait amende honorable dès après l'élection de Trump. On ne peut plus passer une semaine maintenant dans la presse écrite, en tout cas la presse écrite, on va dire, de qualité, Washington Post, New York Times, sans avoir des articles très fouillés sur l'Amérique de Trump, sur les électeurs, justement, de cette Amérique du milieu, du Heartland, c'est-à-dire vraiment des campagnes, cette Amérique rurale, blanche, qui a voté Trump.
Mais à côté de ça, Trump a ses médias aussi.
Alors, oui, bien sûr. Et justement, le problème, c'est que face à cette meilleure connaissance, lui, Trump, il reste dans son jeu avec les médias. Pour la première fois, on a un président qui a Fox News à la télé, qui le soutient éperdument. On a plus de 60% des électeurs républicains qui disent ne s'informer que sur Fox News. Et en plus, il relaye Fox News et inversement avec son compte Twitter, qui est devenu un média à part entière. Donc de ce point de vue-là aussi, il a un avantage comparatif par rapport à tous les anciens présidents, c'est qu'il a un écosystème médiatique entièrement en sa faveur, qui diffuse son message sans aucune contradiction. Et face à cela, eh bien les médias ont deux solutions, les autres médias ont deux solutions, ou bien être, comme je disais, le Washington Post, dans la neutralité objective et bien essayer de rapporter l'Amérique de Trump, mais ils seront quand même taxés de fake news par le président, ou bien faire de l'anti-Fox News, c'est-à-dire faire de l'anti-Trump de gauche pour être un peu le pendant de Fox News. C'est ce que fait par exemple la chaîne MSNBC.
Voilà, première indication ce soir, donc lors de ce fameux caucus de la Iowa qui lance les primaires démocrates aux États-Unis. Merci beaucoup Corentin Célin d'avoir été l'invité de la matinale. Vous étiez en direct depuis Paris avec nous, historien spécialiste des États-Unis.
Le 7-9 de Matin Première.